BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue pour une nouvelle saison de la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Puis vous retrouverez ensuite nos critiques, Jean-Marc Daniel, non d'ailleurs pas Jean-Marc Daniel aujourd'hui, son substitut, son remplaçant Julien Damon, et puis Christian Chavagneux, bien sûr, toujours d'Alternatives Économiques, et puis la fin de l'émission avec nos chroniqueurs, Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter. N'oubliez pas notre compte Facebook, notre page Twitter, c'est le contraire d'ailleurs, notre page Twitter et notre compte Facebook, et on démarre tout de suite avec nos auteurs. Entre les bouchons que vous avez subis sur la route des vacances, le boom estival des ventes d'automobiles, l'arrêt du service Autolib à Paris et la démission du ministre emblématique Nicolas Hulot, on ne peut pas dire que l'été ait été favorable à la transition écologique. Or, au cœur de cette transition écologique, il y a un enjeu majeur, l'enjeu de la mobilité. Alors, quel bilan peut-on faire de toutes les réglementations et politiques de transport mises en place pour que le transport, justement, automobile en tête pollue moins? Est-ce que les véhicules électriques sont la solution? Faut-il et peut-on revoir la place de la voiture dans nos sociétés et comment? La réponse à toutes ces questions avec nos deux invités. Le premier, Laurent Castagnède, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du bureau d'études BCO2 Ingénierie et vous publiez aux éditions Éco-Société Hervor ou la face obscure des transports. Youssef Diab, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique de l'EIVP, l'école des ingénieurs de la ville de Paris, et vous avez dirigé avec Bernard Landau un ouvrage collectif publié aux éditions Presse des Ponts, Le Nouveau Monde des Mobilités. On démarre avec vous, Laurent Castagnède, un chiffre de l'OCDE qui nous dit qu'en 2050, la première cause de mortalité environnementale sera la pollution de l'air urbain. Vous dites demain, c'est peut-être l'air-pocalypse.
Oui, tout à fait. L'air-pocalypse, c'est un terme qui est déjà utilisé en Chine régulièrement. Donc effectivement, aujourd'hui, les transports motorisés, en termes de pollution de l'air, contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on compte à la fois les émanations des véhicules, mais aussi leur fabrication, la construction des infrastructures et leur entretien, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, suivant les grandes métropoles, c'est entre 20 et 50% des polluants urbains.
Alors, quelle est la contribution des moyens de transport à cette dégradation de l'air?
Cette contribution, déjà, le livre aborde le sujet historique, c'est-à-dire de se demander ce que c'était au 19e. Voilà. Donc, au 19e siècle, c'est surtout les chemins de fer, et essentiellement leur construction, qui finalement a contribué à la pollution de l'air.
Ah ouais.
Ensuite, au tournant du 20e siècle, est arrivée l'automobile.
Ouais.
Vous imaginez qu'elle fumait beaucoup, elle polluait, mais à l'époque, il y avait énormément de chevaux dans les villes. Il y avait 100 000 chevaux à Paris, du crottin partout, des cadavres d'animaux morts et des épidémies de fièvre typhoïde. Donc les premiers véhicules qui arrivaient, même fumant, étaient une bénédiction parce qu'on se disait finalement la pollution, au lieu de tomber par terre, elle va partir dans l'air et avec du vent et de la dilution, tout ça se résoudra bien vite. Et d'ailleurs, la crainte était plus orientée sur les poussières avec leurs bactéries et donc on a plutôt goudronné les routes que de se préoccuper des gaz d'échappement.
Alors, le vrai tournant, c'est quand même le début du XXe siècle.
Oui, c'est le début du XXe siècle, avec les chemins de fer qui finalement vont diminuer, les tramways qui vont être démontés, et l'automobile qui va s'imposer. Alors, on peut se demander, et puis ensuite l'aviation qui va décoller et prendre une ampleur considérable. Après, on peut se demander quel est un petit peu le point commun des transports qui se sont imposés, et au contraire, ceux qui ont péniblement subsisté ou périclité. Ouais. Et l'un des points communs économiques sur deux siècles d'histoire, c'est de constater que les transports motorisés qui se sont imposés sont ceux qui se sont fait financer leur infrastructure par la collectivité.
D'accord.
La collectivité, j'inclus la spéculation. Les chemins de fer, notamment le grand réseau américain, a été financé par les spéculateurs qui espéraient faire des bénéfices à terme avec des liquidations successives de l'ensemble des compagnies de chemins de fer.
Mais donc, c'est pas forcément, quand vous dites la collectivité, c'est pas forcément privé.
C'est pas forcément
public.
L'impôt. C'est pas forcément l'impôt général qui finance aujourd'hui beaucoup d'infrastructures, par exemple, quasiment toutes les infrastructures routières en France ou dans les pays occidentaux. Mais c'est aussi lorsque quelqu'un achète des obligations au 19e siècle parce qu'il espère faire des bénéfices dans 10 ans en lui faisant miroiter que les chemins de fer, ça va rapporter beaucoup, et puis qui subit une faillite, ben, en fait, il a perdu son argent, et ce n'est pas le billet de train ou la marchandise qui a finalement
c'est
financé
pas l'usager
le réseau.
Qui paye, quoi.
C'est pas l'usager qui a financé le réseau.
D'accord.
Et par exemple, les premières voitures sans chevaux en Angleterre en 1830 se sont effondrées au bout de 10 ans parce qu'on leur a demandé de financer la dégradation des voies qui n'étaient pas très carrossables.
Alors, on a vu, les chiffres ont commencé à augmenter sur la pollution, etc. Et on a assez vite voulu prendre des mesures pour justement essayer d'enrayer cette pollution. Alors, il y a des normes qui sont apparues à partir des années 60. Et puis, dans les années 70, on s'est dit, oulala, il faut lancer des appels à la sobriété. Or, oui. ce qu'on voit dans votre livre, c'est que tout ça n'a pas marché finalement, tout ça n'a pas fonctionné.
Oui, alors il y a deux sujets là. Les premières apparitions de normes de dépollution à la fin des années 60, début des années 70, elles étaient aussi entravées par le fait qu'on avait mis du plomb dans l'essence depuis les années 20. Ouais. Donc qui a limité l'émergence aussi de des dépôts catalytiques. Ensuite, question sobriété, c'est vrai qu'on pourrait se réécouter les discours, notamment par exemple de Jimmy Carter au moment des chocs pétroliers, qui commençait à faire un appel à la population américaine à la sobriété et aux économies d'énergie, qui n'a absolument pas été entendu. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir que finalement, après l'accord de Paris, on aurait pu imaginer que, retour de l'accord de Paris, les grands dirigeants de ce monde disent à leur population, bon, maintenant la récréation est finie, il va falloir se serrer la ceinture, c'est absolument pas ce qu'on a entendu. Et finalement, l'accord de Paris aujourd'hui est plutôt reste une promesse en fait.
Alors, on se demande finalement, pour sortir de tout ça, est-ce qu'il y a d'autres issues que des mesures violentes, parce que on voit bien dans votre livre, vous le dites finalement, il y a cette espèce d'exaltation d'idéal de la mobilité individuelle. Quand on lit les chiffres que vous citez, de toute façon, cette promesse faite à l'humanité que chacun aura sa voiture pour se déplacer comme il veut, ça veut dire que d'ici 2050 dans le monde, il y aura 60% de routes en plus, je ne sais plus combien vous dites,
oui,
25
exactement.
Millions de kilomètres, c'est ça? Qu'il y aura 1,7 milliard de voitures en 2035 contre 1 aujourd'hui. Donc, on voit tous les efforts qu'on est en train de faire pour l'efficacité énergétique, mais on se dit que l'efficacité énergétique, elle ne sera jamais suffisante pour compenser l'augmentation du nombre de voitures.
Donc, ce que vous citez, c'est pas moi qui le dis, c'est les grands organismes énergétiques qui le supputent. Je ne fais que les transcrire. Les promesses aujourd'hui que tout le monde, que toutes les sociétés, même émergentes, puissent avoir le mode de vie occidental en ayant chacun sa voiture et en partant chacun en vacances en avion, effectivement, la promesse de base aujourd'hui, c'est une promesse essentiellement technologique. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train, et la thèse du livre s'oppose à ce faux semblant, qui est de dire aux gens, ne changez pas de vos modes de vie, certes votre voiture, votre avion y pollue, mais la révolution technologique arrive, ne vous inquiétez pas, la prochaine génération de voitures, elle, on va résoudre, il y a tellement d'ingénieurs qui travaillent sur le sujet que forcément on va trouver la solution. Ouais. Le problème c'est que ce discours, on pourrait avec un certain angélisme l'accepter. Sauf que quand on regarde l'histoire, on se rend compte que, ben en fait, cette litanie, ça fait un siècle qu'on nous promet ça sur diverses options technologiques et que pour l'instant, ça a quand même plutôt été un échec. Donc c'est pour ça qu'il faut douter, en fait, du fait qu'on n'ait rien à changer dans nos modes de vie et que simplement la technologie résoudra ses nuisances.
Donc vous préconisez des mesures radicales.
Ben, c'est-à-dire que bon, on va pas non plus. Ce que je préconise, c'est de pas croire au tout technologique. Après, on va pas mettre non plus tout forcément toutes les technologies à la poubelle, mais elles-mêmes ne suffiront pas.
Oui, mais vous voyez bien,
dans cette idée
de transition écologique, il y a cette idée qu'on va s'adapter progressivement, qu'on va progressivement changer de comportement, etc.
Mais alors,
on voit bien que ça fonctionne pas s'il n'y a pas d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes.
Il y a une question de vitesse de progression, c'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, on parlait de la démission de M. Hulot et de la politique des petits pas. Aujourd'hui, notre lenteur finalement à aborder ces sujets.
On émet plus de CO2 en France qu'il y a deux ans.
N'est pas du tout en phase avec l'augmentation tendancielle des émissions, que ce soit de polluants ou de gaz à effet de serre. Donc les émissions radicales qui s'imposent, alors il y en a 35 pages dans le livre, mais
vous proposez sept
groupes de mesures. Alors ces groupes de mesures, ils abordent finalement l'ensemble des transports motorisés sur les sujets qui sont la taille, le poids, la puissance, la vitesse. Mmh. Quand je dis des véhicules, c'est les voitures, les deux roues, les camions, les avions, les trains, les bateaux, les navires. Donc on a dit taille, poids, puissance, vitesse, mais aussi le nombre, le prix et les carburants qui les alimentent. Pour n'en parler que de deux sur la librairie de l'éco, on va parler du prix. Ouais. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grosse problématique qui est au-delà des externalités environnementales qui ne sont pas incluses dans le prix insuffisamment
d'une voiture dans les taxes, ou
d'une voiture. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la voiture, on ne paie en gros que le coût de fabrication. L'infrastructure, comme on disait, elle est tout le temps quasiment exclusivement payée par la collectivité. Il faudrait se demander si on ne devrait pas inclure, au même titre que dans l'habitat, vous achetez une maison, vous payez les fondations quand vous achetez une maison ou un appartement. Alors le terrain, c'est un deuxième sujet. Il y a déjà les fondations. Aujourd'hui, les fondations, on ne les paie pas. On demande à la collectivité de nous mettre à disposition une route bien lisse. On n'achète que le véhicule en fabrication qu'on pose dessus. Et ensuite, un autre aspect, c'est le contingentement. La question, c'est le contingentement de l'ensemble des transports motorisés pour essayer de questionner le fait qu'on va doubler en 15 ans le nombre d'avions, qu'on va doubler en 25 ans le nombre de véhicules, voitures, camions. Qui sont les perspectives d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'idée, ça serait de créer un petit peu un foncier, ce que vous dites, c'est de créer une notion foncière, au même titre qu'on l'a fait dans l'habitat. Aujourd'hui, dans l'habitat, vous achetez un appartement, une maison, vous payez donc le bâti, les fondations, on en a parlé, mais aussi le foncier, parce qu'il y a eu la création d'un cadastre pour essayer de limiter l'hégémonie de la croissance des villes. Et donc, en fait, si on trouve qu'il y a beaucoup trop, une croissance beaucoup trop forte des moyens mobiles, est-ce qu'on ne devrait pas créer le cadastre de la mobilité au niveau mondial ? C'est-à-dire que quelqu'un qui veuille acheter un moyen mobile motorisé doive acquérir le droit de le posséder avant de l'acheter, en même temps qu'il achèterait, neuf ou d'occasion.
Mais là, vous tombez sur des problématiques après quasi démocratiques. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra moins se déplacer ou qu'il n'y aura que les riches qui pourront se déplacer ?
Pas forcément. Après, ça veut dire qu'il y a une gestion d'ensemble. La transition, si on fait une transition tributaire, effectivement, on peut se dire que si on ne fait qu'augmenter les prix, ben, les gens qui se sont installés dans l'étalement urbain parce que c'était moins cher le foncier de l'habitat et qui se retrouvent à faire 50 km de voiture par jour avec leur voiture d'occasion, eux, effectivement, si on augmente beaucoup les prix, ils vont se retrouver étranglés. Donc, il va falloir repenser en termes d'urbanisme le fait que ces gens-là, on puisse ne pas les imposer d'aller travailler à 25 km. Mais redéfinir les zones d'emploi par rapport aux zones de résidence.
Et bien justement, voilà. Vous m'offrez une belle transition, Laurent Castagnette, puisque vous parlez d'urbanisme, vers le livre de Youssef Diab et de Bernard Landau, enfin l'ouvrage collectif piloté par vous deux. Youssef Diab, vous avez travaillé avec Bernard Landau. Bernard Landau, lui, c'est plus l'urbanisme, c'est problématique, parce qu'on voit bien finalement que les deux problématiques sont quand même extrêmement liées. C'est-à-dire cette problématique de la mobilité et cette problématique du génie urbain, en fait, on peut le dire, c'est quand même extrêmement imbriqué.
Absolument. Alors justement, vous me donnez l'occasion de vous dire un peu notre collaboration avec Bernard Landau, comment elle fonctionne au sein de l'école des ingénieurs de la ville de Paris.
C'est quoi l'école des ingénieurs?
C'est une école, c'est une grande école d'ingénieurs qui a été fondée en 1959 par la préfecture de la Seine de l'époque pour former des ingénieurs dédiés aux services urbains.
Vous, pour prolonger un peu ce que disait Laurent Castagnette, vous êtes sur la recherche des solutions. C'est-à-dire, on voit bien que la voiture, ça va pas être la solution. Et vous, votre idée, c'est de dire, bah, d'une façon ou d'une autre, il va falloir passer de ce que vous appelez la mobilité monomodale à la mobilité multimodale.
Absolument. Alors ça, c'est une entrée qui est très présente dans toutes les politiques publiques des collectivités territoriales en ce moment, de dire ben finalement comment on peut faire pour que les gens n'utilisent plus leur voiture, puisque quand même ce qui est important, c'est d'aller de porte à porte. Alors la multimodalité, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir combiner deux modes ou plus pour aller de porte à porte. Par exemple, des villes qui encouragent l'utilisation pour le premier tronçon de la voiture, par la suite le métro et ensuite le vélo.
Alors, oui, sauf que dans vos publications, dans les diverses contributions qu'il y a dans votre livre, on voit très bien que le transport collectif, ça ne peut fonctionner, ça ne peut être rentable que s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Or, le problème, c'est que personne ne va au même endroit, finalement. Enfin, tout le monde ne va pas au même endroit. Donc, le transport collectif, c'est qu'une partie de la solution.
Oui, bien sûr, c'est une partie de la solution, mais ce n'est pas la rentabilité du transport public qui va le rendre encore plus attractif. C'est sa ponctualité, sa qualité de service, c'est le système d'information aux voyageurs qu'on donne qui rendra le transport public, je dirais, moins déficitaire. Mais est-ce que c'est l'enjeu principal du transport public, c'est d'être déficitaire? On est effectivement dans une approche à la française de dire que le pouvoir public doit contribuer à fiabiliser le système de transport public. Et c'est quelque chose, on y croit beaucoup, justement, de dire que le transport public, c'est une solution importante, c'est la colonne vertébrale de la mobilité en ville, mais il faudrait le compléter par d'autres
acteurs de la mobilité. Sauf que, comme Laurent Castagnette, le bilan que vous faites de toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant, temps, bah, il n'est pas glorieux. Vous dites, par exemple, vous posez la question, est-ce qu'il est vraiment possible aujourd'hui d'assurer des conditions de mobilité dans des villes qui seraient les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui, mais sans utiliser la voiture ? Or, le bilan, il n'est pas exceptionnel. Vous citez Helsinki, par exemple.
Oui, alors... notre conviction, c'est dans quelques années, ceux qui utiliseront la voiture de porte à porte, c'est des gens qui sont très aisés, qui ont les moyens pour travailler dans leur voiture en étant avec un chauffeur et des véhicules peut-être qui ne sont pas polluantes non plus. Ah, d'ailleurs.
Vous êtes pire que Laurent Castagnier.
Voilà. Alors, par contre, nous, on croit que la solution de demain, c'est vraiment cette combinaison des différents modes. Le transport public, si on en a besoin, mais le combiner avec le vélo... Quand ça fonctionne bien, ou d'autres modes de transport, la trottinette électrique, ça peut être une bonne solution aussi. Et ça, c'est ça qu'on cherche à mettre en avant.
Oui, mais regardez, vous dites le covoiturage, les VTC, ou soi-disant on était certains, ça produit des effets incroyables. C'est-à-dire qu'à Londres, où on a voulu restreindre la circulation des voitures privées, bah, vous dites le centre-ville, il est encore aussi engorgé qu'avant, mais alors parce qu'il y a les livraisons, etc. Et alors le pire, bah, moi ça m'a subjugué. Je ne savais pas, à New York,
À Manhattan,
le fait qu'il y ait maintenant les VTC, etc., fait que les gens, il y a plus de bouchons, que les gens prennent moins le bus et moins le métro.
Mais bien sûr, parce que la qualité de service dans le métro new-yorkais n'est pas suffisamment bonne pour que les gens... d'ailleurs, le système de tarification non plus, parce que vous pouvez faire une course entre le nord de Manhattan et le sud de Manhattan, vous payerez 6, 7 dollars, 10 dollars peut-être. Par contre, quand vous prenez le métro de New York, ben, les conditions d'hygiène, je dirais, les conditions de service ne sont pas suffisamment bonnes. Alors du coup, c'est vraiment pour rendre le transport public attractif, c'est la qualité de service, et ça nous amène à cette question d'information. Si vous savez qu'une ligne de métro est effectivement en panne, vous allez trouver un autre mode alternatif de transport. Mais tout ça, ça ne résout pas toutes les questions urbaines. Mais la question urbaine, pour rejoindre ce qui a été dit par Laurent, le problème, c'est les questions climatiques, les questions de pollution, les questions
de réchauffement. Dans quelle mesure les nouvelles technologies peuvent contribuer justement à résoudre ces problématiques de transport? Il y a un article de Marc Ivaldi, de l'École d'économie de Toulouse, qui n'est pas très optimiste. Il dit oui, ça va permettre effectivement de mieux régler, de mieux communiquer, etc. Mais ça n'a pas fondamentalement changé le paradigme de la mobilité.
C'est ce qu'on trouve dans notre ouvrage, justement, c'est des points de vue très différents. Effectivement, Marc Ivaldi est très sceptique par rapport à cette question. D'autres auteurs, des universitaires comme nous, qui se posent la question de dire, bah, finalement, quelles sont les hypothèses? Alors, il y en a trois. La première hypothèse, c'est de dire, bah, finalement, ces nouvelles mobilités resteront un mode marginal, n'apporteront pas grand-chose, parce que le véhicule, la voiture va continuer à évoluer, son coût de fabrication va diminuer, il diminue énormément. Une Logan, maintenant, coûte moins cher, 3 fois, 4 fois moins cher en temps de travail qu'une deux chevaux, par exemple. L'autre approche, qui est de dire, non, bah, finalement, on a ce qu'on appelle les digital natives, les jeunes qui manipulent tout ça, qui n'utilisent plus les taxis, qui utilisent toujours les VTC. Alors du coup, là, les optimistes qui vont dans cette direction de dire, bah, de toute façon, tout sera numérisé, on partira sur le numérique. Et la troisième approche, qui me semble être la plus réaliste, c'est de dire quand même, tout ça, ça manque de gouvernance. Dire finalement, ces acteurs des nouvelles mobilités, quand ils arrivent sur le marché, bah, chacun arrive comme un franc-tireur. Avec son mode de transport, il n'y a aucune coordination. Vous avez les autorités organisatrices de la mobilité qui sont très présentes dans nos collectivités. On peut parler de Bordeaux, on peut parler de la région Île-de-France. Tout ça, c'est bien structuré. Ces nouveaux acteurs n'ont pas le même mode de fonctionnement. Il y a quelques-uns qui viennent du monde de l'environnement, d'autres qui viennent du monde du numérique, d'autres qui viennent du monde de la publicité et qui ont couplé ça avec le vélo. Alors vous voyez, c'est des acteurs qui sont très divers et qui ne s'entendent pas entre eux, et ça pose le problème de ce modèle qu'on peut mettre ensemble.
Alors, voilà. Véhicule électrique, voiture autonome, qu'est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on est là que sur des changements marginaux technologiques, ou est-ce que ça peut vraiment changer notre façon de se déplacer?
Commençons par les voitures électriques. Alors, je pense que, première chose, il ne faut pas considérer la voiture, souvent, quand on fait nos cours, justement, dans les écoles d'ingénieurs, on considère comme un produit. Or, maintenant, le véhicule électrique, la voiture électrique, ce sera vraiment un système. C'est une évolution, une innovation de rupture, parce qu'elle change tout le système. La voiture électrique, il faut qu'elle soit connectée à l'infrastructure. Il faut qu'il y ait des bornes qui communiquent avec cette voiture. Il y a aussi des questions de réglementaire. Alors du coup, la voiture électrique, c'est clairement un moteur de développement important avec quelques limites bien sûr qui peuvent s'imposer, surtout sur l'usage de matériaux.
La voiture autonome.
Le véhicule autonome, je préfère dire le véhicule autonome. Alors, ça me fait penser à un blogueur américain en 2014 qui disait, de toute façon, c'est les meilleures choses parce qu'on va mettre les voitures, les véhicules, les uns à côté des autres. Et du coup, on peut avoir trois fois plus de véhicules à une surface égale. Mais il a oublié les vélos, il a oublié les piétons qui doivent traverser, qui doivent passer dans ces villes. Alors le véhicule autonome, c'est vraiment c'est une solution très intéressante à l'heure actuelle pour le dernier kilomètre dans les zones où il n'y a pas beaucoup de voitures. Par exemple, vous arrivez avec le transport public dans une zone d'activité, vous voulez aller à votre bureau, les modes qu'on voit se développent beaucoup. Dans le milieu urbain dense, l'exemple, la ville de Paris cherche à développer ce mode de transport. Mais c'est assez compliqué par rapport aux questions de l'encombrement du sous-sol, parce que vous avez besoin d'une voirie, je dirais, connectée, équipée. Ben, le sous-sol parisien est plein d'autres réseaux.
Alors justement, mais ça va être résolu. Il y a des problématiques qui ne sont pas aux mêmes échéances. Parce qu'on voit bien que toute cette révolution de la mobilité, elle a des grosses implications en matière d'infrastructure, vous venez de l'évoquer. Ouais. Elle a des grosses implications en matière d'urbanisme. Ouais. Or, tout ça, c'est des années, voire des décennies, avant que ça change.
Alors, souvent, quand on dans les écoles d'ingénieurs ou dans les instituts d'urbanisme, quand on enseigne, on nous pose, on dit, mais est-ce que c'est le transport qui fait la ville ou la ville qui fait le transport ? Cette interaction existe depuis toujours, aussi bien pour les voies express rapides qui étaient créées à Paris à un moment donné, c'était pour l'urbanisme. Par contre, en ce moment, il y a deux approches là aussi. L'approche numéro un, de dire, ben, finalement, le transport, si on le fiabilise, si on le rend efficace, ça peut créer du développement urbain autour, les quartiers de gare. Ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Par contre, aussi, le transport, c'est pour trouver des solutions à des zones qui sont enclavées, des zones qui sont, je dirais, difficilement accessibles par le transport, du coup, qui posent des problèmes sociaux. Alors, du coup, c'est ça, ces allers-retours entre l'urbanisme et le transport. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que les villes européennes sont très préparées pour les nouveaux modes de transport, parce qu'on est dans des villes denses. Et cette ville dense, ça veut dire, ça favorise des modes alternatifs comme le vélo, comme la marche surtout. On n'en parle pas beaucoup de la marche, mais c'est la meilleure nouvelle mobilité, je dirais.
Voilà. Laurent Castagnette, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde en termes de voitures électriques.
Oui, alors on a parlé de deux sujets, voiture électrique, voiture autonome. Sur la voiture électrique, je pense qu'il faut qu'on ne perde pas de vue qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures en circulation dans le monde. Il n'y a absolument pas les métaux, on n'est pas en capacité de produire les métaux rares pour substituer tout ça en quelques décennies. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se dit qu'il y a des batteries uniquement pour en substituer, admettons, 10, 20, 30%, on ne sait pas trop, la question c'est est-ce qu'on laisse le marché attribuer les batteries à qui aura un petit peu plus d'argent pour se les payer. Et à ce moment-là, on peut constater que ça peut être les énormes berlines de luxe qui vont devenir électriques avec 400 chevaux et 800 km d'autonomie. Ça peut être des deuxièmes voitures, mais qui ne vont être très peu utilisées par le ménage en nombre de kilomètres. Et quand on voit l'impact de la fabrication de la batterie, on se dit qu'il vaudrait mieux que ces voitures, finalement, restent des voitures à essence. Et enfin, troisième sujet, c'est que l'électricité supplémentaire qu'il va falloir fabriquer pour faire recharger tout ça, elle-même est quand même assez polluante. Donc du coup, c'est pas tellement les véhicules la question, c'est l'usage. Il faut que les batteries soient sur des usages fréquents.
Youssef Diab, je ne peux pas vous laisser partir sans vous dire un mot sur la politique de mobilité de la ville de Paris que vous avez observée de près. Vous savez, les débats que ça a suscité, fermeture des quais, les autos libres, les vélos, etc. Quel bilan vous faites de la politique active ? Ça, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas active. De la politique active de la ville de Paris en matière de mobilité ?
Alors, avec Bernard, on s'intéresse beaucoup à cette question. Et on a une formule qui est de dire plus de réussite que d'échec. Parce que c'est la rançon de l'innovation. La ville de Paris a toujours voulu aller en avant sur les questions des couloirs de bus. Il y a quelques années, on se souvient, on disait, il y a un débat entre les scientifiques en disant ces couloirs de bus ont généré des embouteillages parce que finalement la vitesse moyenne a baissé. Clairement, il y a des 2 degrés, je dirais, sur les Vélib. Depuis la rentrée, je me rends compte que finalement, on voit de plus en plus de Vélib dans les rues de Paris. Ça veut dire, finalement, c'était un problème, je dirais, d'opérateur qui a permis par la suite de rebondir. Autolib, c'est un autre souci. C'est un problème, je dirais, du modèle qui a été mis en place. le modèle, c'est de dire finalement la déconnexion qui pouvait exister entre l'espace public, entre l'infra et le logiciel. Le logiciel appartient à l'opérateur et voilà, dans l'informatique, on ne fait jamais
ça. La fermeture des quais, c'était une bonne idée ou une mauvaise idée?
C'est une très bonne idée parce que ça permet de faire de l'urbanisme tactique, bien sûr. Ça, et je pense, pour revenir à ce que disait Laurent, c'est pas prouvé encore à 100%, mais la pollution atmosphérique a diminué dans un périmètre qui reste à définir. Je veux pas me...
Dans un périmètre qui reste à définir, la subtilité est là. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle vos deux livres, Laurent Castagnède, Hervor ou La face obscure des transports. Hervor, pourquoi Hervor ?
Hervor, parce que aujourd'hui, les transports motorisés sont un petit peu les dinosaures modernes, en fait. À l'époque des dinosaures, c'était des espèces hégémoniques qui terrorisaient l'ensemble, et puis la vie s'organisait autour des dinosaures à l'époque des dinosaures.
J'avais oublié de vous poser la question. Donc, Hervor ou La face obscure des transports aux éditions Éco-Société. Et puis, notre deuxième invité, Youssef Diab, qui a co-dirigé avec Bernard Landau un ouvrage collectif aux presses des ponts, Le Nouveau Monde des Mobilités. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
Éric Métou, directeur adjoint de la rédaction de l'Express.
Immobilier, les taux de crédit sont encore bas, mais jusqu'à quand? Les prix dans 672 villes et 80 quartiers de Paris, en exclusivité avec les notaires de France. Tous les conseils pour acheter, vendre, louer ou négocier son crédit sont dans le spécial immobilier de l'Express. Profitez du marché avec l'Express, en vente chez votre marchand de journaux.
Légué à la Fondation Arc, c'est accélérer la recherche sur le cancer. Le professeur Nicolas Barry de Longchamp est chercheur à l'Institut Necker.
Alors grâce à la confiance de la Fondation Arc et au financement de nos travaux, ce qui va changer pour les patients, c'est qu'au-delà du fait d'être soignés de leur cancer de la prostate, ils n'auront plus à subir les nombreux effets secondaires des traitements traditionnels, puisque nous développons des traitements individualisés et donc leur qualité de vie sera très nettement améliorée.
Vous aussi soutenez la recherche sur le cancer par un leg à la Fondation Arc. Pour plus de renseignements, appelez le 01 45 59 59 01 ou allez sur le site de la Fondation Arc.
Breteuil Immobilier, 13 agences à Paris et à Londres. Votre partenaire pour vendre, acheter et louer votre appartement ou votre maison dans l'ouest parisien et désormais dans l'est.
Breteuil Immobilier, 2 agences à Londres. Une parfaite connaissance du marché londonien, Breteuil Immobilier vous offre les meilleures opportunités dans la capitale britannique.
Breteuil, l'immobilier clair et transparent.
Retrouvez toutes nos offres et nos services sur breteuilimmo.com.
Breteuil Immobilier, appartements et maisons de famille.
BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. De rentrée, nous la clôturerons avec nos chroniqueurs attitrés, Stéphanie Collo, notre bibliothécaire, Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotteur. Mais tout de suite, évidemment, nos critiques. À ma gauche, Christian Chabagneux, éditorialiste à Alternative Économique et responsable des pages livres du média Alternative Économique. Et puis, aujourd'hui, Julien Damon, notre remplaçant préféré de Jean-Marc Daniel, aujourd'hui en vadrouille. Julien, prof associé à Sciences Po, chroniqueur régulier aux Échos sur les livres, effectivement. Alors messieurs, on commence avec le choix de Christian qui est un des livres importants de la rentrée. C'est le livre de Pierre Rosanvallon, Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018, aux éditions du Seuil, Christian.
Oui, c'est une belle ouverture pour la nouvelle édition de la librairie de l'Écho, parce que c'est un livre, je crois, important. Pierre Rosanvallon nous fait partager 50 ans d'histoire intellectuelle personnelle, mais comme il est au cœur des débats de la gauche...
Est-ce qu'on le présente encore, quand même, Pierre Rosanvallon?
Oui, c'est un professeur au Collège de France, c'est un spécialiste de sciences politiques, c'est un HEC au départ, ce qu'on ne sait pas. Qui a fait son stage ouvrier sur les montages de 4L chez Renault. D'accord. Qui a tout de suite été travaillé à la CFDT et qui se retrouve à 21 ans l'un des responsables de la CFDT. Il nous fait parcourir toutes ses réflexions intellectuelles, essentiellement politiques autour de la démocratie, autour de la vie politique de 68 jusqu'à nos jours. Et comme il était au cœur des réflexions de la gauche, c'est au-delà de l'histoire de Pierre Rosanvallon, c'est l'histoire de la réflexion de gauche. Et on se dit... À avec les regards d'aujourd'hui, que les gens qui étaient des intellectuels de gauche dans les années 60 et 70, ils ont eu beaucoup de chance. Parce qu'entre le PSU, la CFDT, l'école des études en sciences sociales, il y avait plein de lieux collectifs où ils pouvaient se rencontrer, pas seulement travailler chacun dans leur coin, faire leur petit livre, mais travailler ensemble, réfléchir ensemble et excusez du peu, c'est Ivan Illich, c'est André Gorz, c'est Patrick Vivray, c'est Michel Foucault, autant de gens que Pierre-Rosan Vallon a rencontré, et il émaille le livre de portraits de ces gens, de portraits personnels de ces gens, ce qui rend la lecture d'autant plus agréable. Alors, les années 60-70, l'âge d'or, les années 80, François Mitterrand arrive au pouvoir, et là, Pierre-Rosan Vallon nous dit, c'est l'endormissement. La gauche, elle est anti-totalitaire, elle est anti-jacobine, elle est anti, mais elle est plus pro, elle a plus de projet. Ensuite, on continue, Michel Rocard, c'est un petit peu, 88, il est Premier ministre, c'est le point d'orgue, nous dit Pierre-Rosan Vallon, de cette gauche des années 70, c'est de la réflexion de la gauche des années 70, c'est le RMI, c'est la CSG, c'est la culture d'évaluation des politiques sociales, c'est la place donnée à la société civile, etc. Tout ce qui venait de cette gauche des années 60-70. Après, nous dit Pierre-Rosan Vallon, ce point d'orgue, c'est aussi le point d'arrêt de la réflexion de la gauche. Une partie va vers un projet européen très flou. L'objectif, c'est d'avancer vers la construction européenne. Avancer vers quoi? On ne sait pas trop. Donc ça se délite un petit peu. Et la gauche, de ce point de vue-là, porte une responsabilité dans l'absence de caractéristiques d'un projet politique pour l'Europe. D'autres, c'est les technoréalistes. Il faut respecter les colonnes de chiffres. Ouais. On est des technos, les derrière-listes. Et puis, les colonnes, voilà, il ne faut plus de déficit. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a plus de projet politique. Et la seule gauche qui ressort aujourd'hui, nous dit Pierre-Rosan Vallon à la fin du livre, c'est celle de l'anticapitalisme national, comme disait Édouard Remond, le leader de l'extrême droite à la fin du 19e siècle. C'est la souveraineté d'empêchement. Pourquoi est-ce que c'est uniquement cette gauche-là qui parle aujourd'hui? Pierre-Rosan Vallon nous dit à la fin du livre, mon prochain livre, ce sera sur les populismes, pour expliquer. Mais moi, j'attends surtout celui qui nous annonce pour après. Pierre-Rosan Vallon, si vous nous écoutez, vite, vite, il nous propose un traité de l'émancipation au 21e siècle. Comment reconstruire la pensée de gauche pour aujourd'hui? Celui-là, on en a sacrément besoin.
Bah, il peut peut-être, s'il vous écoute, inverser l'ordre de ses priorités de publication. Julien Damon, cet ouvrage de Pierre-Rosan Vallon.
Alors, moi, j'en ai fait une lecture un peu agacée et puis une lecture apaisée. Alors, avant la lecture agacée, c'est vrai que c'est un personnage extrêmement original, c'est un HEC comme il y en a peu, qui nous raconte mai 68 à HEC, d'ailleurs à la Sorbonne, sans être dans les couloirs d'HEC, où on foutait rien, disait-il. Une des grandes questions est de savoir, est-ce qu'on y travaille beaucoup aujourd'hui en tant qu'étudiant encore?
HEC?
Ah, je sais. Ouais. Ah oui, bien sûr, sinon c'est la Sorbonne. Non, une lecture un peu agacée parce que le titre n'est pas le bon. C'est pas notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018, c'est l'histoire intellectuelle et politique de la deuxième gauche. C'est l'histoire intellectuelle de la CFDT, de Jacques Delors. Et là, il n'y a pas, je crois, à critiquer l'auteur pour avoir tiré vers un titre qui ne rend pas exactement compte de ce qu'il dit, parce que, en fait, c'est un témoignage personnel et une analyse personnelle de ce qu'est son les grands enjeux intellectuels, les grands enjeux économiques même, sur les cinq décennies qui viennent de s'écouler avec, et je termine sur ma lecture agacée, c'est quand même un truc, je sens, qui est de sauver un peu cette période des années 70, dite pas de l'éblouissement, mais en tout cas de l'enthousiasme, voilà, que Christian a décrit. Je trouve que sa critique qui est faite des années 80 est parfois un peu radicale. Il critique tous les néos, hein, tout ce qui est néo-économistes, nouveaux économistes, libéraux très décriés en prennent pour leur grade. La nouvelle droite, qui n'est pas drumontienne, pour prendre l'expression de Christian, mais qui est souvent rattachée à l'extrême droite, est aussi extrêmement critiquée. Les néo-réactionnaires, qu'il a mis en page, qu'il a mis en page exagère, mais en tout cas qu'il a, pour le pamphlet qu'il est décrit, au sens où qu'il est critique, qu'il a publié, prennent également pour leur grade. Il y a un peu règlement de compte à OK mon intellectuel. Ça, c'est ma lecture agacée, parce qu'il faut bien critiquer, et qui aime bien châtie bien. Parce que j'aime bien Pierre-Rosan Vallon, et donc j'ai une lecture très apaisée et très intéressée, parce que dans la suite de l'ensemble de ses ouvrages, on découvre les qualités de l'auteur, que sont une écriture extrêmement claire, une érudition accessible, toujours ce souci de faire des trilogies, des tripartitions, des tétralogies, enfin, tout est parfaitement organisé, on se sent plus intelligent. L'essentiel, c'est son projet intellectuel, qui est une analyse critique du libéralisme. Et donc, en prennent pour leur grade deux grands pans du secteur intellectuel. Un, les libéraux intégraux, le libéralisme intégral. Il y a une petite page sur Hayek sidérant Monsieur Casanova de Sciences Po quand il dit qu'il faut absolument pas laisser le droit de vote. Donc en effet, les libéraux ne sont pas forcément libéraux sur tous les plans. Et puis, ce qu'il critique aussi, ce sont tous les anti-libéraux intégristes que l'on trouve chez Bourdieu, chez les essayistes qu'il critique, chez Zemmour, chez Alain de Benoît, donc l'érudit critique à la tête de la dite nouvelle droite. Donc sur le plan intellectuel du creusement de sillon des affaires de M. Rosanvallon, on a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, je trouve en un mot que c'est un ouvrage savant et intéressant sur ce qu'il baptise l'hydre à 100 têtes du néolibéralisme. Il remet les pendules à l'heure sur bien de choses et également sur l'antitotalitarisme, parce que c'est la deuxième gauche.
Mais il faudra attendre, effectivement, pour peut-être avoir les nouveaux fondements d'une pensée intellectuelle
de gauche.
Julien Damon, votre choix à vous, c'est le livre d'Alexis Spire, Résistance à l'impôt, attachement à l'État. Effectivement, au moment du débat sur le prélèvement à la source, on ne pouvait pas passer à côté de cet ouvrage paru aux éditions du Seuil.
Comme je l'ai eu en version électronique, j'ai pu regarder ce qu'il disait sur le prélèvement à la source.
Ouais.
Et il n'en dit pas grand-chose, sinon que ça va être mis en place en janvier 2019.
Bah,
ah,
oui,
c'est ce qu'on pensait.
Attrapé par l'actualité, Alexis Spire.
Mais ce n'est pas du tout l'essentiel de son propos. Là, j'en ai fait une lecture double aussi. Je considère que c'est un beau et excellent travail sur le plan de la méthode et des informations, mais qui a des limites. Sur le beau travail, il faut dire que c'est une belle enquête auprès des Français. Son livre, d'ailleurs, il en ressort une sorte de sociologie des Français face à l'impôt. Ceci à partir d'enquêtes originales, de sondages sur l'ensemble de la population française, et également sur ce qu'il a pu observer au guichet du RSI, au guichet des URSSAF, au guichet du Fisc, etc. Il en sort quelque chose qui peut paraître surprenant, hein. C'est que ceux qui aiment le plus l'impôt sont les classes supérieures. Alors, pourquoi cela? C'est parce que, dit-il, les classes supérieures peuvent jouer avec les niches fiscales, parce qu'elles savent aussi qu'elles peuvent bénéficier des services attachés à la redistribution. Ceux qui aiment le moins l'impôt, c'est, dans la tripartition qu'il fait, lui, les classes populaires, parce qu'elles s'estiment, je pense, maries de l'orientation générale des systèmes d'imposition. En clair, quand on supprime l'ISF, les classes populaires se disent, dites donc, quand même, les riches, c'est problématique. Et puis, vous avez au milieu les classes moyennes, dans leur diversité, qui font que, d'ailleurs, le rappelle-t-il, historiquement, ce sont elles qui se sont, sur le volet des indépendants, le plus opposées et même constituées en réaction à l'impôt.
Christian Chavagneux.
Oui, moi, je pense que c'est un très bon ouvrage. Ce n'est pas un débat intellectuel autour de l'impôt, c'est une étude sociologique sur, on nous dit souvent, les Français et l'impôt, les Américains et l'impôt. Non, on nous dit, le sociologue Alexis Spire, on ne peut pas parler des Français et de l'impôt, les différentes catégories sociales n'ont pas le même rapport à l'impôt. Et je vais reprendre ce qu'a dit Julien. C'est vrai qu'on est surpris quand on dit ça. On dit, oui, les riches, ils essayent tous d'échapper à l'impôt. Ben non, lui nous dit paradoxalement, ce sont ceux qui ont le moins d'appétence pour le consentement à l'impôt. Ce sont plutôt ce qu'il appelle effectivement les classes populaires, parce qu'il découpe la France en trois, classe populaire, classe moyenne, et puis...
Et on aurait pu penser que c'était la classe moyenne, justement, qui se sentait la plus victime, la plus martyrisée, la plus frappée.
Non, parce qu'il nous dit que la classe moyenne, elle sait utiliser les outils de la défiscalisation. Les plus riches, eux, c'est une contrainte aménageable. Et c'est même une contrainte aménagée, on l'a vu avec tous les scandales. Et les classes populaires, pourquoi ce sont elles qui sont les plus, qui contestent le plus le consentement à l'impôt? Parce qu'elle nous dit, souvent, c'est eux qui vont au guichet. Et au guichet, c'est pas toujours facile, d'autant plus qu'avec toutes ces dernières années, il y a de moins en moins de monde qui vient au guichet. Il y a aussi une idée d'impuissance. Oui, je paye mes impôts, mais l'État fait quoi pour moi, pour sortir de ma galère, pour me donner des emplois? Assez impuissant. Et puis, il y a l'injustice.
Mais la deuxième partie du titre, c'est attachement à l'État.
Oui, tout à fait. Attachement à l'État, pourquoi? Parce qu'en fait, paradoxalement, tous ceux qui contestent le plus l'impôt, ceux qui en bénéficient le plus, parce qu'il y a une redistribution, ils devraient être attachés à l'État. Et toute la fin du livre revient sur une idée qui est évoquée au début, dont montrer que la santé, les redistributions en matière de santé, de l'allocation familiale, tout ça profite le plus au moins aisés, et que l'État ne sait pas vendre en fait le fait qu'il fait de la redistribution. Et à chaque fois, enfin plutôt à la fin du livre, Alexis Spire nous dit, le rapport à l'impôt est différent, les contestations sont différentes selon les classes sociales. Il n'y a jamais eu de coordination. Les riches, les moyens et les petits sont jamais coordonnés pour aller contre l'impôt.
Mais un point central, c'est la méconnaissance nourrit la défiance. Ça, c'est vrai.
Tout à fait.
Merci, messieurs. On se retrouve tout de suite avec nos chroniqueurs.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et on retrouve avec plaisir notre bibliothécaire Stéphanie Collo. Stéphanie, ça va?
Ça va et toi?
Excellent, excellent. Alors, la démission de Nicolas Hulot, évidemment. Eh bien, ça fait écho à ce qu'on a déjà connu, cette idée que c'est un ministère compliqué, dans lequel on n'a pas de moyens. Et donc, vous nous donnez un éclairage aujourd'hui, Stéphanie, qui nous emmène en quelle année?
Il nous emmène en 1975. Je vais vous parler d'un livre au titre prémonitoire, Le ministère de l'impossible. Entendez par là, évidemment, le ministère de l'écologie. C'est un livre qui a été écrit par Robert Poujade, il y a plus de 40 ans, quand même. Et déjà, à l'époque, il parlait des capacités de blocage et de la force d'inertie des administrations traditionnelles.
Rappelez-nous d'abord la carrière de Robert Poujade.
Alors, il est né en 1928, il est diplômé de l'École normale supérieure, agrégé de lettres. Il commence sa carrière d'enseignant en 1954 et dès l'âge de 18 ans, il s'engage au sein du mouvement gaulliste. Il devient ensuite un des secrétaires nationaux du parti, puis membre du bureau politique du RPR. Et très tôt, il s'intéresse à la protection de l'environnement. En 71, il crée le ministère de l'environnement, le premier du nom, à la demande de Georges Pompidou. Et c'est une période où l'environnement est une idée à la mode, il faut le dire. Il y restera 4 ans dans les gouvernements Chaban-Delmas et Messmer avant d'être remercié. Et c'est donc un an après qu'il rédige cet ouvrage.
Ouais, Robert Poujade, à ne pas confondre évidemment avec Pierre. Alors comment nous décrit-il ce ministère de l'impossible?
Alors,
Robert Poujade,
ses premières missions concernent la lutte contre la pollution sonore, le contrôle de la qualité de l'air, l'eau, les contrats entre l'État et les branches industrielle polluante. Et dans ce livre, en fait, il accuse le pouvoir de ne pas lui avoir donné les moyens de son action. Il faut rappeler qu'il a un budget de 200 millions de francs et 300 fonctionnaires. Il déplore donc le manque d'ambition et va même jusqu'à dire que l'exécutif mène une politique en contradiction avec les objectifs qu'on lui a fixés.
Oui, Nicolas Hulot n'a pas dit fondamentalement des choses très différentes.
Voilà.
Déjà, il dénonçait l'impossibilité de mener la politique environnementale dans un gouvernement très tourné vers la croissance, et il posait en quelque sorte déjà ce débat écologie-croissance.
Et dès son arrivée, Robert Poujade entend: c'est intéressant votre ministère, il ne devrait rien coûter à l'État. Ça annonce la couleur, d'autant que le gouvernement Chaban-Delmas n'a pas l'intention de renverser la société de consommation au lendemain du premier choc pétrolier. Pompidou prévient: vous allez apprendre ce que c'est que l'administration, vous n'aurez pas beaucoup de moyens et vous aurez peu d'action très directe sur les choses. Très vite, il comprend que la priorité des priorités, c'est l'industrialisation du pays. Et il montre donc qu'il est impossible de mener une politique écologique au sein d'un gouvernement obnubilé par le PIB.
Oui, mais en même temps, il n'y avait pas à l'époque les contraintes environnementales qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'était pas la même pression. Alors, quels sont les blocages que lui a rencontrés à l'époque?
Alors, il y a eu par exemple les ministères, les autres ministères, qui rechignaient à lui céder les compétences qui lui reviennent. Poujade propose de faire payer les pollueurs par exemple, mais les taxes ne plaisent pas au ministère de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce. Il veut préserver les paysages, mais il se rend très vite compte du poids très important des puissants promoteurs immobiliers. Il veut aussi généraliser les enquêtes publiques et les études d'impact, mais là aussi ça bloque avec les ministères de l'industrie et de l'équipement. Il dit: j'ai souvent ressenti avec amertume la force des intérêts privés et la faiblesse de l'État. J'ai eu trop souvent le sentiment de lutter presque seul contre des entreprises que tout aurait dû condamner. Il déplore encore une fois le manque de moyens pour faire fonctionner son ministère. Il dit: avec 300 fonctionnaires et un budget minuscule, il me fallait infléchir la politique d'une douzaine de ministères disposant d'administrations puissantes et de très grands moyens. En clair, ce ministère de l'impossible dérangeait trop de monde déjà à l'époque pour qu'on lui donne les moyens d'action.
Étonnant d'actualité, hein, ce ministère de l'impossible de Robert Poujade en 1975. Merci Stéphanie, on retrouve tout de suite notre globe-trotteur Benaouda Abdelhaï.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Bonjour Benaouda.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la librairie de l'écho et autant de tours du monde. Alors on commence cette semaine par la Chine et on s'intéresse à la diplomatie chinoise de la dette, Benaouda.
À l'occasion de son sommet avec les États africains cette semaine, la Chine s'est beaucoup employée à convaincre qu'elle ne les pousse pas dans le piège du surendettement. La crainte également récemment exprimée concernant des pays asiatiques. Deux chercheurs de la Harvard Kennedy School, il y a quelques semaines de cela, ont jugé la tendance suffisamment inquiétante pour transmettre un avertissement circonstancié au département d'État américain. Ils veulent démontrer dans cette différente dimension les dangers, selon eux, de la politique chinoise du crédit à la construction d'infrastructures dans les pays du Sud. Ils identifient 16 États particulièrement vulnérables, en tête desquels on trouve le Pakistan, Djibouti et le Sri Lanka. Un exemple, un port sri-lankais, impossible à rentabiliser, des prêts pour 1 milliard de dollars en tout, doivent être remboursés à Pékin. C'est passé en crédit bail de 99 ans au profit de sociétés d'État chinoises. Les auteurs soutiennent que, faute d'une utilisation commerciale un tant soit peu suffisante, cette infrastructure pourrait un jour devenir en fait une base militaire chinoise au sud de l'Inde. Le recours également à cette diplomatie de la dette, pour reprendre le titre de cette étude, pour prendre des positions stratégiques tout autour du Pacifique, des milliards de dollars de financement au Vanuatu, au Tonga, Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec, selon les deux chercheurs, des rentabilités économiques particulièrement aléatoires. Selon eux, la Chine encercle, c'est leur terme, des alliés de premier plan des États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On a vraiment dans cette lecture un argumentaire clé en main mis à disposition de l'administration Trump.
On s'intéresse aux conditions de travail, Ben Aouda, ensuite, avec un travail qui a essayé de mesurer l'impact de la communication par email sur le burn-out.
Oui, c'est un travail colombien. Comment identifier un risque accru de syndrome d'épuisement professionnel? Quatre universitaires en Colombie, des économistes, des psychologues, ont proposé ce qu'ils présentent une innovation, l'analyse d'emails internes. Alors, ils ont passé au crible près de 53 000 mails échangés dans une PME entre 57 employés durant 5 mois. Les emails sont passés au crible non sur leur contenu, mais sur la position de la personne dans la réseau de communication, dans le comportement du traitement de mail. C'est très détaillé. Alors, on a les ratios entre ceux reçus, ouais, et ceux envoyés, la proportion envoyée en dehors des heures de bureau, la part du CC, c'est-à-dire la part de la copie, la réciprocité en fonction du rang hiérarchique. Et les résultats sont extrêmement détaillés. Ils fournissent une forme de matrice, ouais, qui permet de distinguer avec une précision, en tout cas nous disent les
auteurs, chirurgical.
Voilà, entre ceux qui sont le plus exposés au risque de, ouais, burn-out et ceux qui en sont le plus éloignés. D'après les auteurs, ça permet d'élaborer un modèle d'alerte précoce pour l'entreprise, sans être intrusif, toujours selon les auteurs, plutôt que de recourir aux questionnaires administratifs qui serviraient d'alerte précoce. Mais ils nous disent, il n'est pas pour autant réaliste de croire que la surveillance des flux de courrier électronique puisse être complètement fiable.
Et puis, cas passionnant, Ben Aouda, pour conclure, que celui des femmes qui ont réussi à surmonter dans leur vie professionnelle la barrière de la maternité. Là encore, c'est une étude espagnole, non ?
Brésilienne, excusez-moi.
Cecilia Machado.
Voilà, nous nous rendons, donc elles sont pas nombreuses, hein, au Brésil. C'est une professeure de l'école d'économie et de finance de la Fondation Getúlio Vargas. C'est l'un des établissements les plus réputés en Amérique du Sud. Alors, après un congé maternité au Brésil, le taux d'emploi des mères chute, s'effondre même. Ouais. Au bout de 2 ans, elles sont une sur deux à avoir perdu leur travail, le plus souvent à l'initiative de l'employeur. L'accélération de cette baisse de l'emploi commence immédiatement après la période dite de protection légale, c'est 4 mois au Brésil. Alors, qu'est-ce qui permet quand même de surmonter cette barrière de la maternité, ou plutôt de limiter les dégâts? C'est, sans surprise, l'enseignement supérieur. 12 mois après le début du congé, le taux d'emploi recule de 35% parmi les diplômés, contre 53% pour les autres mères. Explication fournie, c'est l'investissement de l'entreprise dans les employés les plus qualifiés, mmh, généralement plus élevé. Retenir une salariée suscite davantage d'intérêt dans ce cas. Mais indépendamment du niveau d'études, certaines entreprises permettent à leurs salariés de prolonger le congé maternité, et ça se traduit statistiquement ensuite par une conservation plus importante du poste de travail. Et le constat vaut également pour les femmes peu scolarisées, pas uniquement pour les diplômées. La professeure Cecilia Machado a établi surtout que la responsabilité de cette déperdition de ressources humaines dans son pays est due avant tout au manque criant de structures de garde formelles et abordables des enfants en bas âge. Ce qui fait également défaut, nous dit-elle, c'est l'inadéquation de la législation brésilienne, un recours difficile au temps partiel et à l'aménagement du temps de travail.
Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Alors, nos derniers choix pour aujourd'hui. Julien Damon, qu'avez-vous retenu comme ouvrage ?
À que sais-je ? La mutualité. La mutualité, ce sont les mutuelles, ça semble familier aux yeux des Français qui ont là une de leurs familles de complémentaires santé. Mais là, on a deux dirigeants de la mutualité française qui nous font non pas un plaidoyer pro domo, mais une histoire des principes et des institutions mutualistes, montrant combien tout ceci est à la base et à l'annonce de la sécurité sociale à la française, et puis montrant aussi combien tout ceci a été en concurrence et en complémentarité avec la sécurité sociale, puis avec les règles concurrentielles européennes et enfin aujourd'hui dans un contexte d'universalisation de la protection maladie, la célèbre PUMA, protection universelle maladie, comment l'avenir de ces institutions chères au cœur des Français peut se dessiner. Alors c'est très intéressant, très didactique pour ce morceau de la protection sociale.
Parce que c'est un univers complexe dans lequel c'est pas toujours facile.
Ah oui, justement, ils arrivent à digérer la complexité, on n'y comprend rien normalement, mais là c'est clair. Et c'est bien parce que c'est un pilier de la protection sociale, c'est un pilier qu'aime bien aussi Christian, de l'économie sociale et solidaire. Donc un petit livre très agréable et intéressant.
Et ben voilà, Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui.
Eric Brynjolfsson, c'est un économiste du MIT et qui fait partie techno-optimistes qui pensent qu'avec l'intelligence artificielle, on va avoir un boom de productivité. Sauf que la productivité n'est pas dans les statistiques, donc ça l'embête. Alors, il fouille toujours pour essayer de montrer que ce sera pour demain. Et là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été prendre eBay, le vendeur, qui, en Espagne, n'a pas de site propre. Et donc, quand vous êtes dans un pays latino-américain et que vous allez essayer de chercher quelque chose sur le site d'eBay aux États-Unis, c'est traduit de manière automatique en espagnol. Et eBay décide de bazarder leur ancien traducteur automatique pour mettre une machine auto-apprenante qui se nourrit des requêtes et progresse toute seule, en fait, dans la traduction. Gain estimé dans la qualité de la production, 7%. Est-ce que ça a un effet sur les ventes d'eBay dans les pays latino-américains ? Oui, plus 13% en valeur. Plus 16, plus 13, il y a bien un gain de productivité d'utiliser, de recourir aux machines automatiques. En même temps, plus 7, plus 13, c'est pas le fameux gain de productivité qu'on attend de cette nouvelle machine. Brynjolfsson craque toutes ces petites améliorations dues à l'intelligence artificielle. Il va falloir d'autres études pour nous convaincre que vraiment la productivité va faire un boom pour demain.
Ouais, ça veut bien dire qu'elle est quand même sans doute supérieure à ce qu'on estime.
Les effets sont absolument incroyables. Ouais. Il y a d'autres petits effets qui sont mesurés qui montreraient que la traduction aurait un impact beaucoup plus important sur le commerce international qu'on le pense jusqu'à aujourd'hui.
Passionnant. Allez, moi je termine avec deux petits livres. Allez, le premier, il a encore un petit parfum de vacances. Et puis, on est quand même début septembre. C'est la pleine saison des vendanges. Alors, un petit clin d'œil à cette éloge immodérée du vin de Bordeaux. Et je vous assure que je n'en ai pas consommé jusqu'à maintenant par Jean-Luc Schilling. C'est aux éditions Philippe Rey. Un petit livre plein d'histoires, très documenté, passionnant. Et puis, parce que c'est la rentrée et que c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Le genre de petit livre, vous savez, qu'on vous vend comme des best-sellers internationaux. Alors là, ça n'est pas pour devenir riche et faire fortune. Là, c'est pour savoir prendre des décisions. Ça s'appelle Le Livre des Décisions par Michael Krogerus et Roman Chapler. C'est aux édition Alizio, et en gros ça vous présente les 50 meilleurs modèles de prise de décision, hein, la loi de Pareto, la matrice d'Eisenhower, la pyramide de Maslow, la longue traîne, etc. etc. Voilà, c'était cette librairie de l'écho de rentrée. On se retrouve la semaine prochaine bien sûr, et d'ici là, bonne lecture.